Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Alors, on va prendre un texte, si vous voulez. On va lire dans 3 chapitres, on peut le dire comme ça, si vous voulez. Et nous allons donc aborder un sujet qui est éminemment spirituel, enfin moi, ce que j'ai constaté. Et je crois qu'il fait partie de notre philosophie chrétienne. Alors, le mot philosophie, je pense qu'il faut être conscient que nous sommes animés aussi par une âme. Il n'y a pas que l'esprit, hein. Mais nous voulons que l'esprit domine l'âme. Et on entend souvent, dans peut-être nous-mêmes, nous le vivons, lorsque nous sommes découragés, lorsque nous sommes un peu désorientés dans les circonstances, quelle que soit la nature de ces circonstances, nous pouvons nous le dire à nous-mêmes, nous pouvons finalement souffrir. Et c'est le titre finalement de notre message ce matin. Si je me dis, je suis nul. Et bien entendu, quelquefois on est envahi par des sentiments parce qu'on ne parvient pas à réaliser certaines choses qui nous ont certainement préoccupés ou enthousiasmés. Et lorsque les choses ne se passent pas comme nous le pensons, comme nous l'attendons, on se dit « je suis nul ». Ça vous est arrivé de dire ça ? Hein ? Dans les choses indifférentes de la vie, naturellement, dans nos activités professionnelles, dans nos grands espoirs et grandes espérances, en disant ben, « j'ai raté ». Voilà. C'est quelque chose qui est, en effet, je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire, hein, le mot « nul ». Et nous allons voir à travers 3 exemples, je ne sais pas si ce sont des exemples, mais ce sont des encouragements. J'aimerais que nous prenions les choses dans cette prédication d'une manière positive. Et c'est vrai que la vie n'est pas facile. Et souvent, peut-être en comparaison des autres, il a réussi, moi j'ai échoué. Il fait des choses qui sont formidables, sans véritablement méchanceté ou convoitise, hein, mais de dire, voilà, je compare. Et comme je suis quelquefois dans cet état d'esprit où je me persécute moi-même en disant mais je ne ferai rien de ma vie. Alors à ce moment-là, eh bien, en regardant l'autre, je dis mais j'y arriverai jamais. Alors on va essayer de prendre la leçon ce matin en pensant qu'avec Dieu, tout est possible. Et ce n'est pas le miracle extérieur, ce n'est pas le surnaturel que l'on voit qui fait un petit peu palpiter, vibrer, etc., etc. Non, c'est véritablement, eh bien là, quelque chose qui nous interpelle intérieurement, parce que nous avons besoin d'être guéris intérieurement de certaines choses. Voilà. Et la Bible, eh bien, ouvre cette page, justement, eh bien, pour comprendre que Dieu n'est pas contre nous, il nous a appelés. Et il ne nous a pas appelés à stagner, mais il nous a appelés à avancer. Et vous savez, tout ce que nous pouvons envisager d'extérieur, de grand, de miraculeux, de puissant, de surnaturel, eh bien, tout cela, c'est véritablement, ça passe par une guérison intérieure. Et à partir du moment où tous les matins je me lève en disant « je suis nul », hier j'étais nul, ça fait des années que je suis nul, à force de le répéter, eh bien ça devient une pathologie morale, spirituelle. Alors, Seigneur, il ne nous a pas traité de nul quand il nous a appelés. Il a mis devant nous la perspective de grandes choses. Et je pense que l'Église a besoin d'être guérie de cela. Ou peut-être chacun d'entre nous, nous avons besoin d'être guéri de cela. Alors je voudrais vous dire, hein, si je dis, je parle pour moi, hein, si je dis « je suis nul », alors à ce moment-là, j'écoute une autre voix qui se mêle à la mienne et qui me répète continuellement que je suis nul. Alors on va lire un premier texte. Et là, c'est positif, hein. C'est positif, parce qu'on va voir les trois déclinaisons de cette mentalité. Donc, dans Exode, chapitre 31, versets 1 et 2. 1 et 2, Exode. L'Éternel parla à Moïse et lui dit, « Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et du ou de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, etc., etc. Nous en reparlerons pour la suite. Il s'agit d'un état et une question lorsque nous restons sur la première introduction que nous avons faite, c'est la sous-estimation. La sous-estimation, peut-être que vous avez chacun d'entre vous une idée. Alors, je dois dire qu'il y en a qui se sous-estiment. C'est véritablement le contraire. Ils bombent le torse en disant « je suis le plus beau, je suis le meilleur ». Je suis, eh bien là, le plus grand. Alors là, c'est une autre affaire. Et il y a besoin de guérison aussi. Parce que quand on se sous-estime, on se fait du mal à soi-même. Quand on dit « je suis le plus grand et le plus beau », etc., etc., on fait du mal aux autres. Bah, évidemment, parce qu'on dépasse les limites. Les limites vers l'inférieur, dans la sous-estimation, et les limites de la vie sociétale, dans la vie sociétale, de dire, eh bien voilà, je suis, voilà, il n'y a personne qui me ressemble, il n'y a personne qui véritablement est au-dessus de moi. Alors, on va voir ça. Il y a cette histoire de Betsalel, et il est dit de lui, nous l'avons lu, qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu. C'est important. Pour la grande majorité d'entre nous qui écoutaient ce matin, vous avez fait les expériences élémentaires du salut, de la conversion. Écoutez la parole qui donne la foi, vous avez la foi. Vous avez cru que vous êtes pécheur et que vous vous êtes repenti. Vous vous êtes converti à Jésus-Christ. Et là commence une nouvelle dimension, ce que l'on appelle la régénération, qui va être poursuivie par la sanctification, pas la sainteté, la sanctification. Et dans cette dimension-là, eh bien, vous avez fait aussi l'expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est une vérité biblique, quoi qu'on en dise. Ce n'est pas un dogme comme ça qu'on a mis dans une église, quelle qu'elle soit, mais c'est véritablement une expérience avec le signe évident, le signe initial, qui est le parler en langue. Alors on peut dire beaucoup, je ne veux pas vous faire de la pneumatologie ce matin, mais c'est des réalités, ce qu'on appelle des pentecôtistes. Des évangéliques, voilà, ça on le sait. Mais je remets un petit peu les choses en place parce qu'on n'a pas à douter de cela. Le Seigneur nous a appelés, et il nous a appelés pour une dimension de régner avec lui dans le ciel. Hein. C'est ça notre espérance. Hein. Mais sur la terre, qu'est-ce que nous faisons? Rempli de l'Esprit de Dieu, et Betsaël n'était ni prophète, ouais. Il n'était ni sacrificateur, donc prêtre, il n'était ni paroi, il n'était ni apôtre, c'était un artisan commun. Enfin, quand je veux dire, comme beaucoup d'hommes, hein, qui sont là, eh bien, à travailler des objets, toutes sortes de choses. Et nous voyons que cet artisan était probablement doté de dons naturels, comme tout le monde. Hein, il y en a qui ont le don de la peinture, d'autres la sculpture, l'autre d'écrire des poèmes, d'autres, ça ce sont au niveau de, finalement, eh bien là, la personnalité. Mais il y a des gens aussi qui sont doués. pour des choses matérielles, qui savent faire les choses. On n'a pas, ils ont appris peut-être, hein, mais ils savent en effet eh bien tirer parti dans le don naturel qu'ils ont reçu de faire ce que nous avons autour de nous et ce qui nous fait vivre, hein, quelque part. Hein. On appelle ça des artisans. Après, il y a les artistes, mais bon, on les met ensemble, hein, tout ça, c'est, ça revient au même. Et Betzalel, eh bien là, il est dit dans notre texte que c'était donc, il avait reçu une mission lui était impartie, et pas n'importe quoi. C'est pour ça que il y a des choses qui sont indifférentes de la vie, qui, bon, voilà, on ne va pas en faire une histoire, parce que bon, on n'est pas tout seul d'abord, mais qui sont, disons, dans la vulgarité de la vie, et elles ont leur importance, naturellement. Hein. Et nous voyons qu'il a été chargé par Dieu de construire le tabernacle. Alors, il y a eu le temple plus tard, mais là, c'était naturellement, eh bien, pour une période particulière, qui a duré quelques années, hein, on peut dire même quelques décennies, et de construire non seulement, mais de superviser, parce que c'est une chose de travailler de ses mains, mais c'est une chose de pouvoir, alors ça c'est la tête, hein, de pouvoir finalement mettre tout cela en place, ordonner, préparer, organiser, donc construire et superviser cette grande œuvre à la gloire du Dieu d'Israël, à la gloire de Dieu. Parce que ça avait un but, hein. Quand il l'a appelé, Dieu a appelé cet homme, mais ce n'était pas pour des choses, eh bien là, passagères de la vie, mais c'était pour la gloire de Dieu. Ça, c'est une chose qui est très importante dans ce que nous faisons. Et moi, je vous encourage, mes frères, que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Et pas pour vous. Pas avec des motivations qui sont de vouloir en récupérer quelque chose, d'avoir quelques royalties, si vous me permettez, de différentes sortes, et de dire, eh bien voilà, regardez, parce que là, à ce moment-là, on n'est pas vers le bas, mais on est vers le haut, se prenant même quelquefois pour des pachas ou des caïds, ou au-dessus de tous les autres, pour qu'on puisse dire, ben regardez, hein, prenez exemple sur moi. Ça, c'est pas les choses qui sont, en effet, eh bien là, dans la pensée de Dieu. Et nous voyons que la question est la suivante, c'est que Dieu, qui sait tout faire, qui connaît tout à l'avance, écoutez bien le verbe, va amplifier, c'est pas diminuer, mais amplifier les capacités de Betzalel. Et nous allons voir un peu ce qu'il en était. En reprenant le verset que nous avons lu, il nous est dit, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, n'importe lesquels. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Alors nous avons un petit peu sur la table de travail toutes les capacités que Dieu va doter Betzalel pour justement eh bien, accomplir la volonté de Dieu. Nous avons dans cette personnalité de Betzalel une belle réussite, parce que nous allons le voir, une belle réussite d'ouvrage, de service, nous pourrions dire peut-être même, si l'on veut, bon, de ministère, hein, mais pas religieux, pas spirituel, mais de service, on peut le dire. Et nous voyons que là, Dieu l'a choisi. Pourquoi lui et pas les autres? Il y a des raisons. Il l'a rempli de la plénitude de capacité pour le rendre habile. On a lu, Dieu lui donne l'intelligence. Eh oui. Il lui donne d'être ingénieux avant l'heure. Enfin, on parle d'ingénieur, il y en a aujourd'hui, c'est notre société. Il le fait technicien pour le rendre tout simplement habile, pour le rendre, eh bien là, capable. Il va pouvoir travailler l'or, l'argent, le bronze, les pierres précieuses, les mettre tout simplement peut-être en fonction des attentes que Dieu lui inspire, eh bien là, dans le façonnage, dans la sculpture, et peut-être bien d'autres choses. Si vous voulez vous rendre compte de ce que pouvait être la richesse eh bien, du tabernacle, vous relisez, je crois que c'est dans les livres qui suivent, vous verrez, hein. Peut-être que c'était peut-être un peu ennuyeux parce que c'est fait au millimètre près, hein, avec les matériaux qui vont être naturellement, et puis pas autre chose, hein, selon les principes que Dieu donne. Parce que nous voyons en sous-main, et ça c'est vrai pour nous, c'est vrai pour n'importe qui d'entre nous, c'est pas seulement le pasteur, mais tout le monde d'entre nous, eh bien, c'est quelque chose où il nous est bien montré, nous pouvons le deviner, Dieu prend en sous-main. Vous savez ce que ça veut dire en sous-main? Il y a ce qui est visible, et puis il y a ce qui est invisible, et qui donne les capacités. Mes frères et mes sœurs, vous avez des métiers, et vous avez été formés pour ça. Vous avez appris. Vous avez eu des maîtres d'apprentissage. Vous avez, dans n'importe quel domaine, et aujourd'hui, vous êtes des professionnels. Et vous pouvez vous-même, de vous-même, eh bien là, envisager de faire ce que vous avez finalement à cœur de faire, votre travail en tous les cas, et le faire le mieux possible, parce qu'autrement, vous n'allez plus avoir de clients. Hein, voilà. Alors, Dieu prend sous main ce personnage, et pour vous dire, et j'insiste, Dieu est partout. Il est au-dessus. Il est en dessous, si vous voulez. Il crée en nous la pensée des choses. Quelquefois, spirituellement, nous avons des pensées. Tout prédicateur qui doit monter sur l'estrade pour apporter un message, il lui faut une pensée. Hein, parce qu'autrement, moi, je peux vous raconter tout ce qui se passe dans le monde parce que ça ne vous intéresse pas. Et puis, vous n'êtes pas là pour ça, d'ailleurs. Il va créer en nous l'envie ou le devoir. Je dois le faire. J'ai à cœur de le faire. Ça peut demander des années, quelquefois, hein, avant de se lancer dans l'aventure. Hein. Il nous donne aussi la joie. Parce que quand on commence à voir que ça prend forme, eh bien, on a une satisfaction. Et quand je dis que nous avons une satisfaction si nous sommes dépouillés, que si nous sommes, eh bien là, morts à nous-mêmes, alors à ce moment-là, Dieu se réjouit avec nous. Quand il voit quelqu'un qui essaie de grappiller en disant « oui, mais voilà ». Eh bien, moi, je voudrais simplement vous dire qu'un psaume nous dit que les autres te louent, mais pas ta bouche. Vous connaissez. Joie de faire selon le bon plaisir divin, car Dieu a créé en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Voilà l'ouvrier. Parfait, on peut dire. Enfin, presque parfait. Le bon plaisir divin dans ses talents exploités qui demandent à être développés. Dieu va amplifier. Mais moi, qu'est-ce que je fais dans cette affaire? Dieu m'a donné. Il m'a donné un don, il m'a donné des capacités. Mais qu'est-ce que je vais en faire? Je sais que c'est Dieu qui me l'a donné. Est-ce que je vais le laisser mourir? Est-ce que je vais rester là, eh bien, à contempler de prétendus diplômes qui, finalement, eh bien, ne serviront à rien du tout? Non. Il va y avoir un développement à l'instar de Betzel, même lorsque Dieu nous offre ses dons, parce que c'est gratuit. Je voudrais vous dire que moi, je ne veux pas faire comme Simon le magicien. Hein. Qu'est-ce que tu me donneras pour que je puisse être comme vous? Dira-t-il à Jean et à Pierre. Mais il faut les demander. Et ça, c'est véritablement le corps même de notre réflexion. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Bon, c'est bien. Maintenant, vous allez encore aller plus loin. Vous allez demander que Dieu vous guide. Regardez Moïse, il a passé 40 ans de formation. Pas mal, hein, et encore plus peut-être, même 80 ans, puisqu'il a vécu jusqu'à 120 ans. Il a commencé par le désert. C'est pas sans raison qu'il a commencé par le désert, parce que si nous voulons réussir, il faut commencer par le désert. Et ensuite, on se retrouve dans une situation de prince d'Israël. Enfin, je parle pour Moïse, naturellement. Hein. Et il faut le demander avec humilité et modestie. Et là, il va y avoir quelque chose. Je ne peux pas dire que je suis nul. Parce que Dieu m'a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, à la foi, à la vie spirituelle, à la réussite et au bonheur aussi des autres, naturellement. Et c'est déjà être conscient de cette grande chose qu'est la grâce de Dieu. On a déjà la grâce pour être sauvé, et bien on a aussi, et ce n'est pas un emballage hein, la grâce, hein, c'est vraiment le cadeau lui-même. Hein. On est conscient de la grâce pour faire évoluer nos hésitations, nos doutes et nos insuffisances. Elles doivent diminuer. Et plus je vais finalement me tenir dans la prière pour demander à Dieu qu'il me précise, qu'il me conduise, il y a un temps pour tout. Quelquefois, on peut attendre des années avant de rentrer vraiment dans ce que Dieu nous a préparé pour notre vie. Écoutez bien, c'est important, hein, parce que ça, c'est l'enseignement qui nous est donné à travers mille et un exemple. Hein. C'est la condition pour occuper la bonne place. Il y a des gens qui ne sont pas à la bonne place, parce que Dieu ne leur a pas demandé. Il y a des gens qui ne veulent pas avancer parce qu'ils disent « c'est pas ma place », ben, ils ont peut-être tort, parce que finalement, c'est ce que je suis en train de dire précédemment. La bonne place, c'est celle que Dieu nous donne. Et croyez bien que quelquefois, lorsque l'on voit les ténors, même chez nous, hein, on se dit, mais quel talent, c'est extraordinaire. Hein. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'on peut avoir une mission unique, une seule dans notre vie. Et si nous remplissons cette mission, elle sera courte ou elle sera longue, peu importe, ça peut être toute une vie, mais ça peut être un jour. Alors à ce moment-là, c'est glorieux. C'est aussi glorieux que devait passer. Ça, c'est important. Hein. Donc, être à la bonne place, être béni et accompagné et encouragé, parce que Dieu ne va pas nous laisser seuls. Dieu donne à un ouvrier les outils, mais il donne des compagnons aussi. Et là, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. L'Église, c'est une communauté. C'est une famille. L'Église, c'est quelque chose qui nous réunit pour diverses raisons, soit l'enseignement, le culte, la prière, etc. etc. Mais on n'est jamais seul. Et quand vous regardez le texte que nous avons lu tout à l'heure, eh bien, Belsaïd ne va pas être tout seul. Hein, parce que ce n'était pas une petite affaire. Hein, une petite affaire. Donc, accompagné, encouragé, entouré de valeureux associés, et cesser de croire que nous sommes nuls. Il y a de ceux qui vont être à mes côtés, ils vont avoir des tâches que moi je ne saurais faire et ils ne pourront peut-être pas faire celles que Dieu m'a attribuées. Mais il y a quelque part une association. Oui, oui, on travaille ensemble. Et ça, c'est quelque chose de tellement important pour que la chose sacrée, eh bien, réussisse. Ah oui, on ne peut pas faire cavalier seul, ce n'est pas possible. L'Église est d'ailleurs, finalement, eh bien, la démonstration de cela. Ça, c'est important. Donc, ne nous sentons pas incapables de ce que nous réaliserons ou nous réalisons, et je le répète, sans négligence ni vanité. A une importance, tout cela a une importance, et de ne jamais douter de Dieu, ce que Dieu nous a confié pour en tirer le meilleur, pour en tirer le bénéfice, pour en tirer le profit des autres et de la gloire du Seigneur. Parce que tout le monde va être béni dans cette affaire. Betsalaï n'était pas tout seul. Et pourtant, il avait finalement eh bien, le gros du paquet, si je peux dire. Oui, mais il a su aussi gérer les autres. Il a su finalement eh bien, être conduit pour eh bien, là, peut-être se défaire de certaines charges pour les laisser à d'autres, qui étaient peut-être menuisiers, qui étaient peut-être forgerons et des choses comme ça. Mais il lui a donné l'intelligence, il lui a donné toutes les capacités que nous avons évoquées tout à l'heure. Je dis que chacun, et ça, il faut que vous y pensiez, mes frères, chacun a reçu un don particulier. Oui, mais j'ai rien su à la distribution, Seigneur. Tu m'as oublié, hein ? Non, non. On a tous des qualités. Alors, je peux dire qu'on a des défauts, ça, c'est sûr. Mais moi, je voudrais insister non pas sur les défauts, je voudrais insister sur les qualités, les qualités que nous pouvons avoir et qui enrichissent une communauté. En politique, c'est comme ça que ça se fait. Il y a naturellement le président, et puis après il y a un gouvernement, il y a des ministres, il y a toutes sortes de choses, et puis il y a des conseils de tous les côtés. Ça, c'est important pour qu'un pays puisse fonctionner. Et je peux vous dire que quand on voit un peu ce qui se passe, eh bien, dans le monde, dans notre monde aujourd'hui, avec tous ces, hein, bonnet rouge, bonnet jaune ou gilet jaune, etc., etc. Et puis bientôt, il va y avoir les verts là, qui vont sortir. Hein. Voilà. Mais c'est pour dire qu'il faut véritablement, pour que ce soit de la qualité, qu'il y ait la paix, qu'il y ait véritablement, eh bien là, une amplification et qu'on puisse dire « voilà le témoignage ». Et je crois que notre pays pourrait encore faire des efforts, certainement, pour que les autres pays puissent nous imiter. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Et dans une église, c'est la même chose. Eh oui, c'est comme ça, tout simplement. Parce que c'est un enseignement qui est un enseignement d'intelligence divine. C'est spirituel. Un don particulier pour chacun. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as donné ? Moi, je ne veux pas parler de moi, mais quand je suis arrivé à la retraite, je dis maintenant, qu'est-ce que je fais, Seigneur ? Alors, il y en a que ça les rend malades, hein, parce que c'est comme dans le monde. Hein. Hein, je ne peux plus aller au travail, je ne peux plus aller à l'usine, je ne peux plus ceci et cela. Il y en a qui meurent prématurément parce qu'ils ont perdu finalement le but de la vie. Mais nous avons un but qui est infiniment au-delà de tout notre bonheur d'une vie professionnelle. C'est encore autre chose, bien sûr. Et à ce moment-là, la seule chose, quand tu te retrouves devant un mur et que tu penses qu'une porte est fermée, eh ben, c'est de prier. Amen. Seigneur, tu as donné quelque chose. Et moi, je pense que ma vie, elle n'est pas encore finie. Et quelquefois, c'est dans les grandes réalisations de notre vie, même si nous avons été simples et modestes et que nous n'avons pas cassé quatre pattes en un canard. Vous savez que ça a deux pattes, un canard. Hein. Bon, pour ça, vous le savez. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y en a qui ont fait des choses extraordinaires à la fin, dans les dernières parties de leur vie. Et Moïse, qu'est-ce qui s'est passé pour lui ? Ah, bien sûr, il y avait le palais de Pharaon. Au départ, c'était glorieux. Ensuite, il a eu 40 ans de désert. Et puis après, il est arrivé dans l'aboutissement de la mission pour laquelle Dieu l'a appelé. C'était de faire rentrer le peuple dans le pays de Canaan, le pays de la promesse, là où coule le lait et le miel, là où les Israélites vont être dans le bonheur de Dieu, et puis la terre promise, naturellement. Alors, un don particulier pour chacun. Priez pour ça, mes frères. L'Église a besoin dans les derniers temps. Elle en a besoin. Et là, à ce moment-là, vous verrez que le mot prouesse à vous estourbir, le mot exploit, en disant, mais Seigneur, quand j'ai commencé à marcher avec toi, il y a 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, je ne pouvais pas m'imaginer que ma vie serait comme ça. Ce n'est pas une vie ratée, croyez-moi. Et à ce moment-là, on ne peut pas dire qu'on est nul. Et ce n'est pas à nous de dire, d'abord. Oui, on va le voir d'une autre manière maintenant. Capacité extraordinaire transcendée en ordinaire. Eh oui. Est-ce que ce n'est pas la définition, la meilleure définition du mot miracle ? Ouais. Une chose ordinaire, devenir extraordinaire, parce que les forces, elles ne viennent pas d'en bas, elles ne viennent pas de moi, elles viennent d'en haut. Peut-être que vous avez besoin que je vous rappelle que le mot sous-estimation, c'est se juger, je ne parle pas de juger les autres, hein, c'est se juger en dessous de sa valeur. Je l'ignore, mais on se rabaisse. C'est douter de soi et douter des capacités que Dieu m'a données, parce que c'est comme une mine qui est pleine d'une richesse d'or, d'argent et de trésors extraordinaires et que l'on ne fouille pas, qu'on n'exploite pas. Voilà, ça va rester comme ça, c'est tout simplement l'état latent. C'est se déprécier, c'est se mésestimer. C'est minimiser ses capacités. C'est ça, la sous-estimation. Alors, si vous souffrez de ce syndrome, Dieu va commencer par vous guérir. Mais il faut que vous lui demandiez, au même titre que lorsque vous avez des maux physiques qui vous font souffrir, alors là, parce que ça fait mal. Alors, vous pouvez le demander, mais Dieu va vous le donner. Il va vous apprendre des choses. Mais vous allez préalablement passer par le désert, c'est-à-dire l'école divine, qui a une discipline aussi, hein. Parce qu'on voudrait tout de suite, comme les stars, etc. Ouais, quelquefois, ils ont aussi du mal à y arriver, hein, je peux vous le dire. Hein. Il est donné cette parole, C'est la deuxième version que je voudrais donner. Il est dit ceci dans 1 Pierre, chapitre 4. « Comme de bons dispensateurs des grâces de Dieu. » Il est question de grâce, hein, c'est des dons. « Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu, selon la force, selon l'appel que Dieu communique, afin que Dieu soit glorifié dans la personne de Jésus-Christ. » Ça ne sort pas de cette dimension. Ouais. Je le relis. « Comme de bons dispensateurs des grâces de Dieu, que chacun, tous ensemble, ils sont peut-être différents les dons, ils sont peut-être même quelquefois, non pas opposés, mais divers, tout simplement, on va rester là-dessus, qui vous a été donné par la force que Dieu donne, et cette force, ça s'appelle la vie de l'Esprit, notre communion dans l'Esprit avec eux, la parole de Dieu, avec Jésus, qui se développe à travers la prière. » Je donne un deuxième exemple. Je ne vais pas être trop long, mais il est intéressant. On a parlé de Bethsaïde, qui est une belle réussite avec Dieu. Retenez bien, une belle réussite avec Dieu, en associant Dieu, où Dieu nous a associés avec lui. Alors, la deuxième présentation, eh bien, on va la lire. C'est dans 1 Roi, chapitre 19. Et là, vous connaissez le texte. Hein. Il n'y a pas de souci à se faire. Chapitre 19... Et on va lire à partir du verset 3 à 6. Élie, connaissez, qui était de la même nature que nous, hein, ce n'était pas un extraterrestre ni un ange, voilà, ou super-ange. Hein. Élie, voyant cela, se leva et il alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt, demanda la mort en disant « C'est assez, c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Ah, notre Élie. Il passe par une crise de dépression. Alors, une crise de dépression, parce qu'il se dit, d'abord, je suis seul. Et en plus, je suis nul. Après avoir été le grand Élie que nous avons connu. Oui. De l'exaltation du Carmel, où là, Élie va véritablement prendre le dessus sur 430 ou 450 prophètes de Baal. Alors, je ne vais pas vous dire ce qu'il aura fait, hein, parce que ce n'est pas forcément à faire. Mais bon, toujours est-il qu'il l'a fait. Et il a fait descendre, par la prière, le feu du ciel sur l'autel que Dieu lui avait demandé. Et un autel qui avait été arrosé d'eau. Normalement, le feu et l'eau, ça ne va pas ensemble. Ça, c'est vraiment du surnaturel. Et nous voyons que de l'exaltation du Carmel, Élie va descendre jusqu'aux abîmes du sinistre découragement. Il va parler de sa solitude, parce qu'il va dire à son serviteur, « Moi, maintenant, j'ai plus besoin de toi. Avec ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire mourir, j'ai plus besoin de toi. » Il va se retrouver au désert. Il va faire une marche épuisante dans ce désert, tout seul. Et il va demander la mort. Oui, il va désirer mourir. Ça ne nous arrive pas quelquefois, lorsque nous sommes profondément en déprime, d'avoir envie de mourir, de ne pas voir le jour qui va arriver le lendemain. Et il va se dénigrer. Il va véritablement tomber en défaillance. Ça, c'est de la sous-estimation. Et il dira, « Je ne suis pas meilleur que mes pères. » Pourtant, c'était un grand homme. Et il dira, « C'est assez. » Oui, rien à voir avec les crabes, hein. C'est assez. Hein. D'accord ? Voilà. Ou les baleines. Il se couche et il s'endort, etc., etc. Cependant, il y a quelque chose qu'il ne sait pas et que Dieu va lui révéler, quelque chose qu'il n'a pas vu, parce que sa dépression lui voile les yeux, parce que son problème, finalement, après avoir fait la course avec Jézabel, enfin elle, après lui, il va dire « Maintenant, c'est fini pour moi, c'est terminé. » Cependant, Dieu va lui révéler qu'il y a 70 invisibles de la foi, que l'on appelle tout simplement les 70 hommes, qui, quelque part, n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Et ça, il ne le sait pas. Et nous, il y a bien des choses que nous ne savons pas. Mais moi, je crois qu'il y a tout un combat, toute une armée dans les lieux célestes, que nous ne savons pas. N'allons pas faire de la déménologie pour savoir. Ça ne sert à rien. Mais une chose qui est certaine, c'est que quand Dieu nous a placés comme Bezalel, comme Élie, c'est qu'il y a véritablement tout un accompagnement. Comme Jésus était accompagné par les anges, du début jusqu'à la fin de son ministère, hein. Même jusqu'à l'ascension. Alors, moi je les ai appelés les 7000 invisibles de la foi en la puissance de Dieu. On n'est pas tout seul. On est associé avec Dieu. Et Dieu a mis autour de nous et avec nous, dans l'égalité, ouais, dans la fraternité aussi. Allez, je vais vous citer un petit peu la devise de la nation. Hein? Voilà. Et moi, je crois que tout cela, c'est quelque chose. Et nous voyons que, parce qu'il est dans la déprime, après avoir été exalté et avoir fait quelque chose d'extraordinaire sur le mont Carmel, nous voyons que Élie s'arrête au visible terrifiant, mais il ne voit pas l'invisible de Dieu, parce que c'est une autre réalité. Que Dieu nous montre ou qu'il ne nous montre pas, en tous les cas, eh bien, il nous est dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Voilà, mes frères. Ouais, c'est ça. Chapitre, je ne sais plus, c'est dans le livre des psaumes. Alors, Bezalel, une belle réussite avec Dieu. Élie, du succès triomphant de Carmel à la dépression, voire même le désespoir. Et à un moment donné, nous allons justement retrouver dans 1 Roi, chapitre 19, versets 9 à 10, il est dit ceci. Ah oui, c'est 1 Roi que je retrouve, voilà. 1 Roi, je me trompe de référence, mais pardonnez-moi. Il est simplement, j'ai dit, 9, 10, 14, 18, hein, 9. Voilà. Et là, dans son désespoir, Élie rentra dans une caverne, et il y passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ? » Il répondit, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel et le Dieu des armées. » Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée les prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Dieu lui répond, sors, tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Ça veut dire, faut sortir quelquefois un peu de nos chemins tortueux pour monter un petit peu plus haut. Et c'est là où Dieu va parler à Élie. Et il va lui dire tout simplement, au verset 14, il lui dira... Et il le dira pour deux fois, hein, Élie. Hein. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné, etc., etc. » Et Dieu va lui répondre, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et puis ensuite tu viendras loin d'autres rois. » Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Mais Dieu dit à Élie, « Je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche, ne l'a pas honoré. Oui, j'ai gardé 7000 hommes. Et ça, on en a parlé tout à l'heure. Eh bien, il ne savait pas, le brave Élie. La conclusion, nous allons la donner sur cette parole, tout simplement. La conclusion, nous la trouvons dans le Nouveau Testament. Alors, on va tourner les pages dans le chapitre 10 de Luc. Chapitre 10 de Luc. Tout simplement 17 à 19, ou alors peut-être même un peu plus tôt. Après cela, le Seigneur, verset 1er de chapitre 10, hein, le Seigneur désignera encore 70 autres, pas 7000, mais 70 disciples, et il les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur a donné cette mission. La moisson est grande, mais il n'y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, etc. Vous connaissez le texte, vous pourrez le relire. Eh bien, à bonne fin pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il en est ? C'est toujours le mot « ensemble » qui est un problème, qui est une question et qui est une nécessité ensemble. Ils sont 70 cette fois-ci. Et Jésus va leur donner le mandat de faire de grandes choses. 70 envoyés et il les envoie deux à deux. C'est important. C'est important quand un pasteur a une pastourelle, c'est ce que je veux dire. Parce que bon, il y a les deux genres, il y a l'homme et la femme, et les perceptions et les échanges sont peut-être différents et complémentaires. Mais même quand on est deux frères ou deux sœurs à remplir une mission, mais c'est parce qu'on ne doit pas être seul. Absolument. Et là, ils sont partis 70, partout en Israël. Le travail est immense, il nous est dit. Oui, priez donc le maître de la moisson parce qu'il y a peu d'ouvriers, tout simplement. Il parlera de la prière en commun. Oui, parce que pour avoir une prière en commun, il faut être plusieurs, hein, ça c'est clair. Il y a une mission à haut risque. Je vous envoie, eh bien là, comme des brebis au milieu des loups. Eh oui, alors n'allons pas pleurer, parce que finalement, eh bien là, nous allons avoir des difficultés, nous allons avoir des rejets, nous allons avoir des tribulations. Mais ça fait partie, finalement, de la mission, tout ça. Hein. Marque d'appartenance. Vous les saluerez quand vous rentrerez dans une maison. Et vous apporterez une bénédiction qui leur conférera en mon nom la paix. Alors, il y a l'exaltation de ces hommes qui est un travail secret dans l'invisible, la prière, l'encouragement et des promesses. Au verset 19, il est dit tout simplement cette parole. Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » C'est clair. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, hein, mais réjouissez-vous avant tout que vous êtes enfants de Dieu et que vos noms sont écrits dans le royaume de Dieu. Alors là, je peux vous dire que ça fait tomber toute velléité d'orgueil et de prétention, quoi qu'il en soit. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout cela? Qu'est-ce que l'on peut tirer de ces derniers mots? Donc, travail secret dans l'invisible, travail de Dieu, où nous avons des promesses. Parce qu'ils ont reçu à ce moment-là le pouvoir, la capacité, l'autorité sur la nature invisible. On parlait de visible tout à l'heure. Oui, parce qu'il a vu que le visible, le pauvre Élie. Mais là, Dieu va essayer de les éclairer, parce qu'il parle clairement de ce monde occulte, de ce monde secret, de ce monde ténébreux, naturellement. Et il va même octroyer à ses disciples, les 70, il va leur dire, je vous donne une garantie de sécurité. Rien ne pourra vous nuire. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie, où ils sont inscrits dans les cieux. Alors si nous disons les uns et les autres, et si nous l'avons passé, pensé, je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, ne dites jamais, ne dites pas, je suis nul. On est nul sans Dieu. On est nul sans la foi en Jésus-Christ. On est nul sans la parole qui nous donne finalement tous les conseils qui sont nécessaires. Mais on n'est pas nul. Parce que là, à ce moment-là, on déshonore Dieu. Ça va? Oui. Parce que Dieu ne nous a pas appelés à la nullité. Il nous a appelés à la gloire, avec lui, à la partager. Reprenons le dessus, mes frères et sœurs, par rapport à ça. Parce que ce sont des faux raisonnements qui ne viennent pas forcément de nous, mais qui viennent de l'ennemi pour nous empêcher de faire et d'être ce que le Seigneur a préparé pour nous et qu'il attend que nous fassions. Avec sa grâce, dans la foi, par la foi, la prière de la foi, pour nous accompagner naturellement. Souvenons-nous de Bethsaël, où je l'ai dit tout à l'heure, où c'est l'image d'une belle réussite avec Dieu. Souvenons-nous d'Élie, où après un succès triomphant, a plongé dans la dépression, la déprime et dans le désespoir. Souvenons-nous des 70 dont nous venons de parler l'histoire. Ils sont allés, ils ont obéi, ils sont revenus exaltés. Les démons nous sont soumis, etc., etc. Ça a dû faire quelque chose de formidable. Hein. Et il y a le message de Jésus pour nous donner le code de conduite, le code de comportement, et de ne pas dire « je suis nul ». Ouais, ne disons pas, ne croyons pas les suggestions de l'ennemi qui essaie de nous tenter, qui essaie de nous susurrer pour que nous ne fassions pas l'œuvre de Dieu en disant « je suis nul ». Parce que je termine avec ça, mes frères et sœurs, je vous dis, et on l'a vu dans notre vie, peut-être vie modeste, même de pasteur, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Que le Seigneur nous bénisse maintenant. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier, Seigneur, parce que nous sommes soit en haut, soit en bas. Et nous avons besoin de cet équilibre que nous donne ta parole, que nous donne les exemples merveilleux de ta parole dans toutes les réussites. Mais aussi, eh bien, en effet, les échecs peuvent aussi nous instruire pour que nous ne les reproduisions pas. Seigneur, dans le nom de Jésus, merci Seigneur parce que tu as fait, en effet, comme nous l'avons chanté, tu as fait de ton peuple des sacrificateurs. Tu as fait de nous des serviteurs. Tu as fait de nous, en effet, eh bien là, les agents. Non pas les instruments, mais les agents. Parce qu'un instrument, c'est une chose. Un agent, il est vivant. Peut-être un homme ou autre chose. Et nous voulons te rendre grâce. Parce que nous croyons, et moi je te prie pour cette église, pour nos frères qui sont à Redon aussi, pour que véritablement tu nous bénisses. Et Seigneur, c'est vrai que nous voulons rester, Seigneur, modestes et humbles. Mais nous voulons véritablement aller au bout. Quand tu nous as appelés les uns et les autres, c'est que tu avais une mission. Peut-être témoigner dans notre famille, ça commence par là. Peut-être à nos amis, dans le monde social. Peut-être nous as-tu donné eh bien, telle ou telle capacité pour eh bien, là, évangéliser d'une manière ou d'une autre. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, quand ton peuple te dit eh bien, nous sommes nuls, à ce moment-là, nous sommes véritablement à côté de ton plan. Seigneur, rends-nous, en effet, dans nos capacités que toi-même, tu as départies à chacun, et qu'ainsi, Seigneur, que ce soit dans le secret ou dans le visible, peu importe, une chose qui est certaine, c'est que nous puissions véritablement aller toujours plus loin avec toi, parce que nous, nous restons sur la terre, nous avons, en effet, les pieds lourds, mais une chose qui est certaine, c'est que toi, tu es au ciel, et rien n'est limité pour toi. Merci Jésus et bénis ton peuple pour qu'il devienne véritablement eh bien, des Betsalel et puis également comme les 70. Oui Seigneur, gardant les promesses, gardant ta grâce au fond de nos cœurs et de nos vies. Merci Seigneur. Amen.